Marche du Monde. Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde consacrée à l'histoire du Front National, dont la présidence a été assumée pendant 40 ans par Jean-Marie Le Pen.
Réduire le fléau économique et social du chômage par la réduction massive de l'immigration étrangère, comme le disent nos affiches, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop.
Extrait de votre documentaire, Emmanuel Blanchard, ce discours de Jean-Marie Le Pen, qui dans les années 70, on l'a évoqué juste avant les infos, existe à peine hein, sur la scène politique française. Le Front National représente environ 1% des voix à l'époque. Alors la question, c'est bien comment ce parti d'extrême droite va passer de 1 à 10, voire 20%, avec un discours inspiré par des intellectuels marqués Algérie française, marqués anticommunisme, marqué antisémitisme, comme par exemple François Duprat, on l'a évoqué tout à l'heure, et c'est lui notamment qui souffle à Jean-Marie Le Pen la fameuse expression « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop ».
Exactement, vous dites antisémite, on pourrait presque dire que François Duprat est un néo-nazi, hein, et il a eu un rôle absolument fondamental, comme on l'a dit, dans le projet déjà de création du Front National,
oui. Et
il a eu aussi un rôle dans les années 70, dans la construction idéologique, et notamment une des grandes idées de Duprat, c'est de donner au Front National une dimension sociale. Et de construire cette espèce d'équation complètement tordue d'ailleurs, de dire que 1 million de chômeurs c'est 1 million d'étrangers en trop, qui est une formule qui est reprise d'un slogan de l'Allemagne hitlérienne, tout simplement.
Quand vous parlez de nationalisme et de social, c'est-à-dire que c'est une forme de national-socialisme.
C'est une forme de national-socialisme. D'ailleurs, François Duprat lui-même se définit comme un nationaliste révolutionnaire. Il est clairement dans l'idée que ses idées doivent prendre le pouvoir, que pour cela, il faut un temps jouer le jeu démocratique et que c'est Le Pen qui va le faire pour lui. Donc il est vraiment dans l'idée de construire une idéologie pour prendre ensuite le pouvoir.
Et pour prendre le pouvoir, il faut commencer par avoir des adhérents, avoir des électeurs. Et vous proposez en effet différentes pistes pour expliquer l'envolée du Front National dans votre film.
Pour se faire entendre, Le Pen a besoin de la télévision. Et pour y être invité, il lui faut un coup de pouce. C'est François Mitterrand qui va le lui donner.
Jean-Marie Le Pen lui a écrit en lui disant « Nous sommes frappés d'ostracisme dans les communications nationales de radio-télévision. Je vous demande de faire le nécessaire pour que cela cesse. » Mitterrand m'en avait parlé, puis il m'a dit « Je vais le faire. » Parce qu'il considérait que c'était quelque chose d'équitable.
Roland Dumas était alors ministre de François Mitterrand.
Souci d'équité ou stratégie politique, François Mitterrand ouvre grand les portes de la télévision au chef du Front National. En février 1984, Le Pen est l'invité de la plus populaire des émissions politiques, L'Heure de Vérité.
C'était probablement la première fois que toute une série de Français, qui d'ordinaire ne se sentaient représentés par personne et qui avaient des idées ou des préjugés qu'ils n'osaient pas eux-mêmes exprimer publiquement, voyez quelqu'un qui cherchait à les réfléchir, à les transmettre, voire à les accentuer, et en tout cas à les récupérer et à les canaliser.
Vous avez peut-être reconnu la parole du célèbre journaliste politique Alain Duhamel. La parole de Jean-Marie Le Pen est médiatisée par la télé, son discours politique est validé par l'union avec la droite classique sur certaines élections. Une formule gagnante, comme le rappelle Karl Lang, figure du Front National jusqu'en 2008.
Là, nous sommes, 1983-1986, vraiment dans la phase d'ascension et de reconnaissance. Nous avons à l'époque le sentiment que tout est possible, qu'il y a une véritable vague Front National et vague Le Pen, puisqu'en 3 ans, nous sommes passés de 1% à 10%. Donc pourquoi pas passer de 10 à 20. Donc c'est vraiment la période de la grande dynamique du Front National et de Jean-Marie Le Pen.
Rien ne peut arrêter l'essor du Front National. Les élections européennes de 1984 vont en être la caisse de résonance. Cette élection, au scrutin proportionnel, favorise les petits partis. 10 députés FN entrent au Parlement européen.
Emmanuel Blanchard, dans votre film Le Diable de la République, vous voulez montrer que François Mitterrand aurait favorisé la montée du Front National en France. De quelle façon ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 70, Jean-Marie Le Pen réussit à s'assurer le monopole de l'extrême droite. Il n'y a plus de rivaux, l'extrême droite, c'est lui.
C'est lui.
À partir de 81, les élections sont donc gagnées par la gauche et il va se retrouver à être dans l'opposition d'un gouvernement de gauche, dans l'opposition avec la droite classique. Et il se trouve que pour des raisons d'arithmétique politique très simples, la gauche a intérêt à diviser la droite. Autrement dit, François Mitterrand a intérêt à ce que existe à la droite de la droite un parti qui prend des voix à la droite classique.
Et il faut également donner l'axe média pour que les thèses du Front National montrent en quelque sorte qu'ils sont incapables de les mettre en œuvre et de gouverner.
Alors, ces questions qui se posent au début des années 80, est-ce que Le Pen a le droit d'aller dans les médias ou pas? C'est une question qui est très actuelle, hein, qu'on continue à se poser. D'une certaine manière, on l'a tranché aujourd'hui. Oui, c'est normal qu'un candidat, dans la mesure où il ne conteste pas les règles du jeu démocratique, ait le droit à la parole. Maintenant, évidemment, faire exister Le Pen médiatiquement, c'était aussi toujours une façon de diviser la droite. Puis il y a autre chose, c'est que l'entrée dans l'ère médiatique, pour Le Pen, c'est là que va avoir lieu le jackpot électoral.
Alors, Le Pen l'a souligné, le chômage monte, ça c'est vrai, mais lui dit c'est la faute des immigrés. Le discours est simpliste et il fait réagir notamment une jeunesse française consciente de ses origines métissées, une jeunesse black, blanc, beurre.
Contre le racisme quotidien, pour la France multiculturelle, pour que la logique de l'amitié l'emporte toujours sur celle de la haine et de la mort.
On conçoit SOS Racine comme étant un mouvement de masse, c'est-à-dire qui doit mobiliser beaucoup et qui doit être quelque chose qui est porté par les jeunes. Et chacun doit pouvoir, à sa manière, exprimer son adhésion au mouvement. Et c'est ça l'idée du badge et de porter le badge.
Julien Drey est devenu député PS en juin 88 et ce n'est peut-être pas un hasard.
Une fièvre antifasciste s'est emparée du pays. François Mitterrand a vite compris lui aussi le bénéfice qu'il pouvait en tirer. Pour cette jeunesse qui crie « Abat le Front National », Tonton devient le rempart contre la bête immonde. SOS Racisme est largement soutenu par l'Élysée.
Je préfère ces cris de joie et d'accueil aux cris de haine qu'on entend ailleurs.
Emmanuel Blanchard, alors cette enquête historique que vous avez menée, elle permet de comprendre que Tonton, donc Mitterrand, récupère SOS Racisme, ou bien c'est le PS qui a en quelque sorte créé, favorisé la création d'SOS Racisme.
Là encore, il faut faire attention à ne pas avoir une grille d'analyse trop simpliste. C'est-à-dire que, évidemment, que le PS est derrière la création d'SOS Racisme. Tous ces dirigeants sont aujourd'hui des cadres très importants du Parti Socialiste. Maintenant, la réaction populaire est sincère. Et je veux dire, la jeunesse a réagi sincèrement. C'est pas Mitterrand qui a mis 1 million de personnes dans la rue.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Nous revenons sur 40 ans de Front National en compagnie de Emmanuel Blanchard, co-auteur et co-réalisateur du film Le Diable de la République. Alors pour se développer, un parti politique a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et pour l'évoquer, vous exhumez dans votre film cette archive télévisuelle de l'INA du 12 octobre 1976.
Le 24 septembre dernier, mourait subitement, à l'âge de 42 ans, Monsieur Hubert Lambert, milliardaire français, héritier des ciments Lambert et d'une douzaine d'autres sociétés. On a appris que c'était Monsieur Le Pen, donc, qui risquait d'hériter d'une trentaine de millions de francs. Mais la famille du défunt conteste et demande l'annulation pure et simple du testament fait au début de l'année.
Mon cousin Germain Hubert Lambert, c'est un garçon qui, malheureusement, avait une totale absence de volonté.
Il a, selon vous, été influencé?
Ça me paraît incontestable.
La réponse de Jean-Marie Le Pen.
Mais ça n'est pas la première fois que la famille de cœur l'emporte sur la famille de sang, surtout quand celle-ci est très éloignée. Mes amis Lambert ont décidé de me désigner comme légataire. C'est leur droit le plus strict.
Le Pen hérite du manoir de Montretout, sur la colline de Saint-Cloud. Le président du Front National est désormais un homme riche, un jeune rentier qui va consacrer sa vie à la politique.
Et en 1988, il faudra encore plus d'argent au Front National.
La campagne de Le Pen est à la hauteur de sa démesure. Car pour la financer, il a trouvé un mécène aussi riche qu'improbable. Depuis un an, il a conclu une alliance secrète avec la secte coréenne du révérend Moon, qui compte des millions de fidèles à travers le monde.
Ce que nous sommes, c'est quelque chose de très simple. En fait, nous sommes un mouvement chrétien qui avons un idéal qui est très fort, qui est très pur, je crois. Nous ne sommes pas contre l'argent. Nous pensons que l'argent peut être utilisé pour le bien et doit être utilisé pour le bien.
C'était un accord logistique national et international qui devait pouvoir amener Jean-Marie Le Pen jusqu'à l'élection présidentielle de 88.
Emmanuel Blanchard, il y a eu un héritage, c'est une chose. Mais en 88, le financement par une secte internationale, là c'est autre chose, on entre dans une autre dimension. Quelle est cette personne que l'on vient d'entendre, que vous avez interrogée pour votre film ?
Alors c'est Pierre Sérac, qui était le dirigeant de l'espèce de holding, qui était la filiale de la secte Moon, qui s'appelait COSA, pour la France.
D'accord.
Le Moon, c'est une secte, c'est aussi une holding financière qui possède des journaux et qui a une influence absolument considérable à cette époque-là. Pas seulement par le nombre de ses adhérents, mais aussi par ses appuis politiques, ses contacts, c'est eux qui ont en partie financé la campagne de Reagan. Donc c'est un carnet d'adresses, c'est beaucoup d'argent, et ils décident de s'implanter en Europe. Ils vont aller voir plusieurs dirigeants politiques de droite. Tous les dirigeants approchés vont dire « Attendez, nous, on ne prend pas de votre argent ». Évidemment, Le Pen, lui, ça ne lui pose pas de problème. Il se retrouve sur l'anticommuniste. Il faut voir que Moon, c'est une secte très anticommuniste. Et après, il va y avoir un arrangement électoral qui va faire que Pierre Sérac va se retrouver député FN en 86 et va servir de passerelle entre le Front National et la secte.
L'accès aux médias, le financement... Le Front National donc se développe et se revendique comme le seul parti véritablement patriotique.
Symbole du peuple et de la patrie, bergère à 14 ans, général à 17, martyr à 18, nous venons te dire aujourd'hui, la reconquête est commencée.
Passé maître dans l'art du bricolage idéologique, Le Pen fait de Jeanne d'Arc l'étendard d'une nouvelle croisade. Martyr pour les uns, patriote pour les autres. À l'extrême droite, la pucelle fait l'unanimité.
Emmanuel Blanchard, quelle est cette croisade que vous évoquez dans votre film, menée par le Front National et donc par Jean-Marie Le Pen, son unique porte-voix ?
En fait, les thèmes de la croisade vont évoluer au fil des années. C'est dans un premier temps l'anticommunisme, puis début des années 80, enfin c'est clairement ce que lui va baptiser la gauche socialo-communiste et qui va être son fonds de commerce électoral pendant des décennies.
Ce sont des millions de Français supplémentaires, parmi lesquels beaucoup de jeunes citoyens, dont certains votaient pour la première fois, qui sont venus rejoindre le grand élan de la Renaissance nationale. Rien ne se fera plus en France sans, et a fortiori contre la volonté des électeurs du Front National.
Et au présidentiel de 88, les scores du Front National évidemment grimpent. Nous l'avons évoqué au début de cette émission avec le politologue Pascal Perrineau. C'est quand même avec le développement du chômage, de la pauvreté, du malaise qui gagne la société française tout entière, que le Front National gagne également des voix, puisqu'il désigne en quelque sorte des ennemis de l'intérieur, des responsables du malheur des Français. Et il distingue même entre les Français. Il y aurait les vrais Français et les autres. Emmanuel Blanchard.
Ah oui, c'est toujours dans la droite ligne des idées de François Duprat.
Oui.
La désignation d'un bouc émissaire, les étrangers, les ennemis de l'intérieur que sont les juifs, et puis progressivement, principalement les immigrés noirs, arabes, qui vont être les boucs émissaires et les responsables de tous les maux de la France.
Jean-Marie Le Pen est un tribun, un orateur hors pair. Il est exceptionnel, certes, de ce point de vue-là, mais il cultive aussi la provocation, voire le dérapage.
Tant que je ne serai pas, monsieur Gisbert, à vos yeux, tant que je ne serai pas peint en noir, je ne serai pas antiraciste.
Supposez, madame Guichenet, que vous soyez partie de chez vous tout à l'heure en oubliant de fermer votre porte. Quand vous allez rentrer à 11h30, vous allez vous apercevoir qu'il y a une famille de Sénégalais avec leurs 6 enfants installés dans votre salon et votre chambre à coucher. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller coucher sous les ponts avec vos enfants si vous en avez ? Non. C'est-à-dire que j'applique en quelque sorte une hiérarchie des sentiments et des directions. J'aime mieux mes filles que mes cousines que mes voisines que des inconnus et des inconnus que des ennemis. Par conséquent, j'aime mieux les Français, c'est mon droit.
Le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autre. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu.
Je dis
et du rafour crématoire, ces mots provoquent une émotion extraordinaire et dont je dis qu'elle est purement artificielle. C'est un instrument de combat. Comment se justifier d'avoir dit ça? C'est dérisoire.
Mais sachant les conséquences très néfastes qu'avait eu l'histoire du détail, pourquoi après ça vous n'êtes pas très vigilant sur ces sujets-là? Pourquoi
Je dois m'interdire de parler parce que le CRIF me l'interdit. Ça, c'est pas Le Pen, ça.
Emmanuel Blanchard, on vient de vous entendre vous reposer la question encore une fois pour votre film à Jean-Marie Le Pen. Il assume totalement.
Oui, il assume totalement, et disons que c'est plus un trait de personnalité, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen n'est jamais revenu sur les choses qu'il avait dites, même si, et c'est le cas en tout cas de cette affaire du détail, où il tient des propos absolument révisionnistes pour lesquels il a été condamné. Enfin voilà, Jean-Marie Le Pen ne présente pas ses excuses, ne fait pas de repentance, ça, il n'en est pas question. Ce qui ne veut pas dire que dans le fond, il ne pense pas qu'il a fait une énorme erreur, parce qu'il a fait une énorme erreur.
C'est ce qu'on vous a dit off.
Le Pen ne dirait jamais ça, mais tous les gens qui étaient dans le studio se sont dit « mais qu'est-ce qui lui a pris ?» Y compris des gens qui étaient d'accord avec ce qu'ils disaient. Mais dans leur esprit, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, parce que les conséquences sont, pour le parti, des conséquences très dures, puisque c'est vraiment le début de la marginalisation politique. À partir du moment où Le Pen tient des propos révisionnistes et ne s'en excuse pas de façon claire, pour la droite classique, il n'est plus possible de s'allier avec un parti comme ça.
Alors effectivement, en ce qui concerne les dérapages, tous les cadres du parti ne votent pas pour. Écoutons Bruno Maigret, extrait de votre film Emmanuel Blanchard, Le Diable de la République.
Moi, j'étais dans une démarche de dédiabolisation. Il n'y avait aucune raison de multiplier les provocations qui nous pénalisaient et qui ne correspondaient pas à une nécessité politique ou idéologique.
Maigret a le charisme d'un Bernard l'ermite, commente Le Pen qui ne peut cacher son agacement. En 1995 et 1997, le FN prend quatre villes du sud de la France, Marignane, Orange, Toulon et Vitrolles. Jusque-là, le Front National, c'était lui. Maintenant, il faudra partager la vedette avec un jeune loup ambitieux.
Jamais il n'a souhaité que des cadres du Front National se fassent connaître localement pour devenir des leaders locaux.
Faillite, corruption, incompétence, les aventures municipales du Front National seront désastreuses. Mais elle réveille les ambitions des cadres du parti, car pour la première fois depuis 10 ans, le parti est en mesure de leur offrir des mandats et des postes que les provocations de Le Pen avaient rendu inaccessibles. Au sein du mouvement, certains commencent à s'interroger sur la stratégie du chef.
Le Pen considérait le parti comme une marque, comme un outil, comme quelque chose qui le servait. Point final, c'est tout.
Le Pen ou l'homme qui ne voulait pas du pouvoir. Effarante révélation pour les cadres du Front National. À leurs yeux, Le Pen devient une machine à perdre, un boutiquier cynique qui, pour faire prospérer sa PME politique, se tient délibérément à l'écart du pouvoir. Le FN est au bord de la scission. Le Conseil national du parti s'annonce explosif. Pour la première fois, le patriarche va être mis en minorité.
Mais Jean-Marie Le Pen ne le voit pas de cette façon.
Eh bien, ils se sont heurtés au menhir. Et le menhir, c'est pas facile à bouger.
Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartier-maîtres félons. J'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête. À ma demande, le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérents messieurs Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Olivier, Franck Timmermans, Serge Martinez.
Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
21 avril 2002.
En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
Alors à ce moment-là, les militants du Front National sont bien évidemment très heureux, Emmanuel Blanchard. Mais le président, lui, du Front National, Jean-Marie Le Pen, à votre avis, qu'est-ce qu'il en pense ?
Je pense d'abord qu'il était surpris, parce qu'il faut voir qu'on est dans une séquence politique très difficile pour le Front National. Il y a eu la scission, ils ont été laminés, ils ont plus d'argent. C'est un moment difficile. On pense que le parti va pas réussir à se relever, et il fait ce score absolument surprenant. Lui, il est surpris. Maintenant, qu'est-ce qu'il en pense profondément ?
Est-ce qu'il veut le pouvoir ?
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'a jamais voulu le pouvoir et qu'il a tout fait justement pour que ce pouvoir lui reste totalement étranger. Il en a fait son fonds de commerce, il en a fait sa façon même d'exister politiquement. Le problème, c'est est-ce que dans le fond, il n'aurait pas aimé être président ? Moi, je pense que ce n'est pas impossible que dans le fond, il n'ait pas eu ce désir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a tout fait pour ne pas l'être et que le jour où voilà, il est au deuxième tour, il récupère l'addition de tous ses dérapages, de toutes ses positions extrémistes. Etc. Voilà. Il ne peut pas gagner cette élection.
Alors on l'a vu dans cette émission, les tentatives de contrer Le Pen en interne au sein du parti ont échoué. Et en externe, si j'ose dire, sur le terrain du débat politique, ça n'a pas toujours été probant, mais c'était sans compter avec Nicolas Sarkozy, alors jeune ministre de l'Intérieur.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous me donnez l'impression...
Bonsoir monsieur Le Pen.
Bonsoir monsieur, j'ai dit bonsoir en arrivant, mais vous étiez inclus dans mon bonsoir collectif.
Dans ma cage d'écureuil.
Eh bien, écoutez, justement, je dois dire que je trouve
vous,
que vous ressemblez à l'écureuil. C'est ça, l'écureuil est sympathique, il a même du panache, n'est-ce pas ?
On a suffisamment de désaccords pour avoir un vrai débat. Or, le problème avec vous, c'est que vous remontez toujours à Mathusalem.
Ah oui ?
Peut-être une époque que vous avez connue, j'ai du mal à suivre.
Ah le...
Et
oh
dans
oui.
le même temps, vous dites, oh oui. quand je vous demande des sujets précis, on ne peut pas avoir un débat pour l'avenir. Qu'est-ce qui intéresse les gens ? Si vous voulez me faire dire...
C'est
que...
vous qui dites ce qui intéresse les
attendez,
gens.
Attendez.
Emmanuel Blanchard, pour quelles raisons avez-vous choisi justement ce document d'archives ? Comment l'analysez-vous ?
Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que Jean-Marie Le Pen a été député en 1956, donc au moment de cet extrait qui date de 2003, il a déjà plus de 50 ans de vie politique dans les pattes. Et pour la première fois, alors qu'il avait à peu près terrassé tous les hommes politiques avec qui il avait débattu, là pour la première fois,
il est déstabilisé.
Plus que ça, il se fait vieillir. Et Sarkozy le brocarde sur ce thème-là, mais on a vraiment le sentiment qu'il y a une page qui
fait partie du passé,
qui est tournée,
qui
appartient au passé, et que voilà, que c'est un vieux monsieur.
Alors aujourd'hui, un nouveau visage pour le Front National que celui de la fille de Jean-Marie, mais le nom n'a pas changé, c'est bien Le Pen.
Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double. Puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci.
D'abord, je ne veux pas aller sur ces plateaux de télévision. Et mon père me dit, tu y vas. Voilà, tu y vas et tu fais tout. Et tant pis si tu chutes, si tu tombes. C'est comme ça que tu apprendras.
Il souffre beaucoup, M. Mélenchon notamment, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez ? Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête ? C'est vous, et c'est vous.
Moi ?
Mais oui, bien sûr, votre parti.
Mais qui allez, celle-là ? Qu'est-ce que j'ai
fait, moi ? Le RPR, l'UDF, le PS et le PC.
Marine Le Pen, 11 546, soit 67,65%. Marine Le Pen est élue président du Front National.
Depuis de nombreuses années, moi je suis bien consciente, je vois bien ce qui se passe. Je vois qu'on nous a affublés de la tunique du diable. Et que cette tunique du diable, c'est autant de digues qui sont montées pour tenter d'empêcher le Front National d'accéder au niveau qui devrait être le sien.
Comme pour l'histoire de mon pays, je prends l'ensemble de l'histoire de mon parti et j'assume tout.
Dominique Albertini, c'est avec vous que nous avons ouvert cette édition de La Marche du Monde et c'est avec vous que nous allons la refermer. Après ces 3 années d'enquête menées avec David Doucet, votre co-auteur aux éditions Taillandier, de cette histoire du Front National et à la lumière du film de Pascal Blanchard et des analyses de Pascal Perrineau, que pouvez-vous nous dire sur l'identité du Front National aujourd'hui ? Le parti est-il en rupture ou en continuité avec sa propre histoire ?
Ah, c'est évidemment plus compliqué que la rupture complète ou la continuité parfaite. Le Front National n'est plus ce qu'il a longtemps été, c'est-à-dire qu'il n'est plus une maison commune de l'extrême droite. Aujourd'hui, le Front National est idéologiquement plus homogène. Se dire républicain, c'était loin d'une évidence lors de sa création. Aujourd'hui, le Front National a à sa tête une jeune femme pour qui certains sujets, tels que l'avortement, tels que la Seconde Guerre mondiale, sont peut-être secondaires, au mieux ne doivent plus être abordés.
Aujourd'hui, pourtant, le Front National est toujours dirigé par une Marine Le Pen. Il y a déjà une nouvelle génération, la personne de Marion Maréchal Le Pen qui arrive. Aujourd'hui, le Front National est toujours un parti structuré autour d'un chef charismatique, autour de sa fonction tribunicienne. Aujourd'hui, la pierre angulaire du programme frontiste est toujours la préférence nationale. Donc, rupture au pluriel et continuité, ça sera toujours aussi difficile qu'avant de cerner précisément le phénomène frontiste.
Dominique Albertini, on a pu voir dans d'autres pays qu'il y a forcément, à un moment donné, une conjoncture entre des idées ultranationalistes, entre la volonté de trouver des boucs émissaires. En ce moment, c'est l'Europe, on l'a bien compris, au regard des résultats des élections. Est-ce que vous partagez les analyses de Pascal Perrineau ?
Historiquement, oui, ce genre de situation crée des mécontentements très profonds, une insécurité matérielle pour énormément de personnes qui tendent à rejeter en bloc le système qui, pensent-elles, les amène dans cette situation et donc à se reporter sur un parti qui se présente, lui, comme une alternative globale à ce système. Cela dit, il y a peut-être d'autres facteurs que celui-ci à prendre en compte. Par exemple, en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen parvient au second tour, la France connaît une situation économique relativement bonne par rapport à celle que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, à l'époque, d'autres facteurs entraient en jeu. La période de cohabitation qui rendait peut-être plus flou le clivage droite-gauche. Et je pense que entrent également en jeu des facteurs d'ordre culturel, identitaire, des questions sur la place de la France dans le monde, sur son histoire, sur son identité d'hier et d'aujourd'hui. Ce sont des questions profondes, importantes, qui sont parfois vécues de manière douloureuse par des gens qui, par ailleurs, ont d'autres problèmes, économiques notamment. Mais je crois qu'il ne faut pas les mettre de côté. Ce n'est pas du tout accessoire. La question « qui sommes-nous ?» est extrêmement importante et s'additionne par ailleurs à tous les problèmes dont vous avez parlé et qui sont aujourd'hui surtout économiques et sociaux.
Le marine, si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu y es pour quelque chose, t'as tout fait pour que ça foire, marine.
Une histoire du Front National, c'était une marche du monde réalisée par Cécile Pompéani. Marine, pourquoi tu Retrouvez-nous sur RFI.fr et sur Facebook. Exprimez-vous. Cette émission, c'est la vôtre.
Moi, je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marie.